Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Nouvelle tendance, nouveau comportement, mais aussi bonne vieille névrose. C'est la société numérique dans laquelle nous vivons, une société qui méritait son émission. C'est Studio 404. Bienvenue.
Studio 404, présenté par Lame UA.
Je suis ravi de vous accueillir dans cette deuxième émission de Studio 404. Je vous rappelle le principe, 5 sujets de 5 minutes. Au programme aujourd'hui, de la politesse, est-ce que Facebook est ringard, parlons du poujadisme dans le jeu vidéo, du cas Free et de la justice via Internet. Le tout avec 5 experts passionnés. Et je commence par le premier. Bonjour Daz, comment ça va?
Salut Lame, ça va très bien, merci.
Alors Daz, toujours en verve, toujours un flow très tranquille pour balancer des choses très dures.
Tout le temps, laid back,
il faut. Back. Voilà, Miami est avec nous. À côté de toi, nous avons Mélissa Bounoua. Comment ça va Mélissa?
Très bien Lame, très bien.
Alors toujours journaliste connectée pour le plus au Nouvel Obs.
Oui, il paraît que je traîne sur Internet la journée.
Voilà, elle est payée pour ça, donc nous sommes tous jaloux de Mélissa. En face de toi Mélissa, nous avons Sylvain Palais. Sylvain, comment ça va?
Ça va super bien.
Donc Sylvain, lui, est notre agent double. Il travaille sur les internets, mais il travaille aussi pour les annonceurs et les grandes marques. Il pourra nous raconter les choses obscures.
Les coulisses du métier.
Et à côté de toi, enfin, notre quatrième chroniqueur est quasiment mascotte. C'est une peluche, c'est un tigre, c'est Fibre Tigre.
Bonjour, c'est Fibre Tigre.
Comment ça va?
Ça va pas mal.
Donc Fibre Tigre est obsédé par Twitter, mais parfois, il arrive à parler d'autres choses. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va commencer avec le premier sujet tout de suite.
Sujet numéro 1. La nouvelle politesse à l'heure des smartphones.
Alors pourquoi parler de politesse alors que nous sommes entre gens de très bonne manière, extrêmement urbains? C'est parce qu'il y a depuis quelque temps un vrai débat qui s'ouvre, surtout à table et surtout entre amis, qui est le sujet des smartphones. Ces objets nous ont extrêmement connectés, ils nous ont aussi beaucoup déconnectés de nos convives, et voire déconnectés des règles élémentaires de civilité entre personnes. Donc on l'a tous vécu d'un côté ou de l'autre de l'écran, on se retrouve un peu isolé à vérifier, checker, scroller, lire sur son smartphone, alors que en face de nous il y a la famille, il y a un rendez-vous galant, il y a des amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on se retrouve dans une société sophistiquée et sauvage, ou est-ce qu'il y a des règles et des techniques aujourd'hui pour essayer d'apprendre des nouvelles politesses? Je commence par toi, Daz, qui a vécu la chose il y a pas très longtemps.
Oui. Comme tout ce qui se passe avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies, il faut que les gens s'adaptent et prennent leur marque. Et donc là, effectivement, maintenant, on observe des gens qui pratiquent le phone stacking.
Ah, le phone stacking. Tout de suite un anglicisme. Que se passe-t-il?
Donc c'est l'empilement de téléphones, notamment. Qui est une pratique qui consiste en fait à poser son téléphone sur la table, et tout le monde pose son téléphone sur la table, si possible sur le téléphone de l'autre, de manière à avoir une pile un peu homogène.
Faut mettre le plus gros dessous alors.
Ouais, ça serait mieux, ouais.
C'est un peu comme les caplas, c'est pas mal.
Ouais, en général, on met un Galaxy Note 2 en dessous pour être sûr qu'il y a de la stabilité. Voilà. On fait un Jenga de téléphone et le but, c'est que personne ne consulte son téléphone à table, sous peine d'avoir un gage qui, généralement, est de payer l'addition pour tout le monde.
Alors, à ton repas, est-ce que quelqu'un a craqué?
Non, mais ça a été très très dur parce que les autres convives essayaient quand même de...
Et les téléphones sonnent?
De tendre des pièges.
Les téléphones sonnent?
Si
quelqu'un vibre?
Si quelqu'un vibre, la pile s'écroule.
Ça, c'est une première conséquence.
Ça a été vécu en direct, ça.
Seconde conséquence, est-ce qu'on a senti que des gens étaient nerveux, ou qu'il y avait déjà un peu de réflexe d'aller chercher dans sa poche le smartphone?
On sentait un peu, les gens commençaient à se gratter comme des accros au crack.
Ouais. C'est une maladie, hein.
Ouais, c'est assez compliqué, de couper, mais finalement, on n'est pas trop mal sorti.
Alors, cette pratique est assez amusante, Fibre. Tu as un peu enquêté. Elle nous vient des États-Unis?
En fait, oui, ça a commencé dans le Vermont. C'est un bled qui s'appelle Burlington, et c'est genre, je sais pas si vous vous souvenez le soupe nazi de Seinfeld. C'est un mec, il a dit, moi, si vous rentrez dans mon resto, pas de smartphone sinon dehors. Et donc, alors ça a fait un petit tollé à l'époque parce que bon, l'Amérique est un pays de liberté.
Pas la France.
Et puis après, un peu pour surfer sur la vague du buzz, il y a quelques restaurants, notamment à Los Angeles, qui ont dit bah voilà, petite ristourne de 5% sur la note si vous laissez votre smartphone à l'entrée.
Alors toi Sylvain, est-ce que tu trouves
quelle bande de nazis ?
Est-ce qu'on atteint les libertés ou est-ce que la politesse mérite des mesures drastiques comme ça ?
Bah après, moi je pense qu'il faut s'adapter aux nouveaux usages et si les règles de politesse élémentaires qu'on suit depuis des siècles sont mises à mal par les nouvelles technologies, peut-être que c'est parce qu'elles sont obsolètes justement. Mmh. Après ça dépend de l'environnement, c'est une question de bon sens. Si t'es un rendez-vous galant, bah tu vas pas passer toute ta soirée sur ton smartphone, mais quand t'es avec des copains que tu connais depuis très longtemps, c'est pas assimilé à de l'ennui, c'est une autre façon de
communiquer. Il faut préciser que quand on est en réunion de travail, Sylvain Palais sort son téléphone et tweet sans arrêt, il ne regarde même pas.
Je vous écoute, je vous comprends.
Il est multitâche, il est multitâche.
Mais ceci étant, moi je suis d'accord avec Sylvain. Et je pense que le restaurant, à l'origine, c'est on se retrouve en société, on vit en société. Alors aujourd'hui, la société, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est votre vie sur votre smartphone. Donc c'est normal, justement, qu'au restaurant, on sorte le smartphone et on vive.
Ouais, mais c'est chaud.
Alors, Mélissa.
Tu te retrouves donc en soirée, disons, prendre en photo ton repas. Et là, en fait, t'as les potes qui sont autour de toi, qui vont liker la photo sur le réseau en question, donc Instagram.
C'est une couche de plus, une couche sociale supplémentaire.
C'est-à-dire que ça fait partie de la soirée, finalement.
Alors, mais question, il y a aussi une deuxième pratique qui consiste à créer une pause smartphone. C'est-à-dire que c'est un peu comme la pause cigarette ou la pause le plateau de fromage. C'est qu'à un moment dans le repas, des gens se décident à dire, OK, tous ensemble, entre le plat de la distance et le dessert, par exemple, on s'arrête tous et on peut enfin craquer, tous sortir nos smartphones ensemble. Est-ce que c'est glauque? Est-ce que c'est une solution qui est plus ou moins, c'est assez pragmatique, assez efficace.
C'est un peu ça, en fait, parce que quand les gens sortent fumer, ils finissent par aller checker leurs iPhones.
Justement, pour les gens, la pause clope, les gens qui ne fument pas se retrouvent un peu seuls à table. Ça aussi, c'est vécu. Hein.
Donc, et sortent leur téléphone.
La pause smartphone, c'est chouette, mais quelqu'un qui n'a pas de smartphone, il fait quoi alors, du coup?
Il n'a rien à faire sur cette émission, déjà.
D'accord. C'est ça, il y a encore des gens qui n'ont pas de smartphone, pensez-vous.
C'est vrai que je l'ai vécu assez naturellement, cette pause smartphone, elle se fait naturellement, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le bar ou dans le repas, il y en a un qui va sortir son téléphone, et tout le monde en profite à ce moment-là, quoi. Ouais. Et puis 5 minutes plus tard, on le range, et puis on se remet à parler.
Alors, petite remarque, pourquoi lutter contre quelque chose qui va devenir une norme? Je veux dire, la génération qui arrive, ils sont contre quoi on est en train de lutter.
Mais je suis pas d'accord moi avec ce que tu dis par contre. Pour,
attention Daz, il nous reste quelques secondes. Donc
oui,
non,
simplement
bon.
Pour dire que on a des portes automatiques un peu partout, ça empêche pas de tenir la porte quand une femme passe.
Oh, wow, quelle belle métaphore.
Ça c'est beau.
Quel gentleman.
On lutte contre la technologie,
Daz,
mais voilà.
Voilà. Daz, la caution R&B beau gosse.
Ouais, toujours poétique lover.
Allez, restez poli en tout cas.
F
Première question de la fac de cette deuxième émission de Studio 404, et une question qui va faire hurler les puristes du débat déjà en général, puisqu'elle est très complexe et qu'on a très peu de temps. Quelle est la différence entre le libre et le gratuit? Est-ce que c'est différent déjà, Fibre Tigre?
Eh bien, en anglais, libre, ça se dit free, et gratuit, ça se dit free, donc il n'y a pas de différence.
Donc il n'y a pas de différence pour toi, mais là tu te trolles.
Le troll. Non, mais moi je suis un peu d'accord, parce que c'est les puristes qui nous emmerdent avec ça, parce qu'on confond souvent, c'est comme web et internet. Bon, c'est presque assimilé maintenant, ça veut presque dire la même chose.
Mélissa.
Ça ne veut pas dire la même chose.
Ça ne veut pas dire la même chose.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais pas acheter. Je vais prendre quelque chose de gratuit, une appli par exemple. Ils vont pas se dire, je vais prendre une appli libre. Sauf ceux qui cherchent justement à utiliser ce type de...
Bon, et à la fin, Daz, est-ce qu'on sait ce que c'est que le libre ou le gratuit?
Le libre par rapport au gratuit, c'est une approche philosophique de la chose. Hein, donc,
avec ou sans argent, en fait.
Le libre est forcément gratuit. Par contre, le gratuit n'est pas forcément libre. C'est-à-dire que pour avoir accès au libre, il faut que tu puisses modifier le code du programme que tu utilises.
C'est comme les bonbons et les chewing-gums, et les chewing-gums et les bonbons.
Non, mais on va pas débattre.
Allez, on vous invite à aller sur Wikipédia et on va parler d'un sujet très libre. Non, pas très libre, mais très gratuit, c'est Facebook.
Sujet numéro 2. Y a-t-il un autre réseau pour remplacer Facebook?
Second sujet de Studio 404, et nous allons parler donc de Facebook, mais pas que. Je déteste cette expression, mais c'est ça. Facebook est-il ringard? C'est la première question que je vais vous poser. Et surtout, si Facebook est ringard, où faut-il aller pour être vu, pour être lu, pour être suivi sur d'autres réseaux sociaux? Mélissa, est-ce que pour toi Facebook c'est ringard, ou est-ce que de toute façon c'est devenu au-delà de la question de c'est ringard?
Bah, c'est un peu devenu un classique. C'est dur à dire, chaque personne pensera que c'est dur à dire, mais c'est vraiment un classique parce que ça permet d'organiser plein de choses. On peut passer encore par les mails, mais c'est vrai que créer un événement sur Facebook, je pense qu'il y a des gens qui doivent utiliser Facebook que pour ça, pour faire des soirées. Et donc c'est ringard parce que ça fait longtemps que ça existe, et qu'en temps d'internet, ça représente à peu près un siècle depuis la création en 2006, mais c'est indispensable pour plein de gens. Après, il y a des gens qui choisissent de dire non et qui s'envoient des mails pour
organiser des fêtes. Toi, tu es utilisatrice résignée, d'une certaine manière.
Tout à fait.
Sylvain.
Bah, tous, hein, je pense. C'est pas vraiment qu'il est ringard, c'est qu'il est mainstream.
Ouais.
Même si, je sais plus ce que donne le
score. Parce que là, on a un chiffre de membres actifs, c'est ça, quand même.
Ouais, et en France, je crois que c'est un Français sur deux.
Ah oui, quand même.
Ouais, quand même.
Donc ça c'est
et après, faut voir la part des internautes en France aussi, parce que je pense que.
Ouais.
Bah, je pense que t'as des chiffres là-dessus, toi, Fibre.
Fibre, as-tu des chiffres dessus?
Non, je n'ai pas les chiffres.
Facebook est ringard, parce que Facebook, il y a ta mère. Et oui, quand il y a votre mère.
Tu vas mieux parler de ma mère, mais ensuite, vas-y, tu peux développer.
Mais quand il y a vos parents sur Facebook, bah, oui. Vous pouvez plus prendre des photos un petit peu délire que vous faisiez il y a 5 ans. Donc, du coup, un des 18-29 ans qui sont sur Twitter à l'heure actuelle, viennent de Facebook, c'est la fameuse migration qu'il y a eu en janvier dernier, parce qu'ils n'en pouvaient plus, et enfin, sur Twitter, ou sur les autres réseaux sociaux alternatifs, mais notamment Twitter, ils peuvent s'exprimer et dire « j'adore Justin Bieber » sans que sa mère dise « ah, qui c'est Justin Bieber ?» quoi.
Est-ce que tes parents, ou ta maman, ta mère, on va dire, pour parler jeune, sont sur Facebook? Est-ce que voilà, tu as des connaissances sur Facebook qui t'obligent du coup à aller peut-être t'exprimer?
C'est vrai qu'on se modère un peu plus maintenant, de là à dire que Facebook est ringard, je dirais pas ça. Je rejoindrais Sylvain sur le mainstream. Pour moi, un réseau social ringard, c'est copain d'avant. Là, clairement, ça, c'est ringard.
Là, c'est plus ringard.
C'est flingué, c'est claqué, on est d'accord. Voilà. Facebook, on n'en est pas encore là. On va y venir certainement.
Est-ce que c'est un peu comme Windows? Tout le monde le déteste culturellement, mais tout le monde l'utilise à la fin.
Bah, complètement. Ouais.
Il nous pomplaire aussi avec ses pubs, Facebook. Hein, c'est insupportable. Ouais. Je veux dire, cette monétisation de tous les aspects de votre vie privée, c'est hyper angoissant.
C'est le futur, mec.
Voilà.
J'espère que le futur sera la même chose, mais
Sylvain, qui travaille chez l'annonceur, il a compris. Sylvain, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres réseaux. Enfin, quels sont vos réseaux favoris? Puisque le réseau social, c'est quand même aussi une appartenance à une tribu. On a compris que Facebook n'appartient à plus aucune tribu aujourd'hui parce que c'est totalement générique. Où vas-tu, toi?
Moi, je réfléchis différemment qu'en tribu.
Ouais.
Mais plus en outils.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque réseau social est un outil qui permet de faire quelque chose en particulier. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Fib quand il parle de migration des ados de Facebook vers Twitter. Moi, je pense que tu remplaces pas Facebook par Twitter. Tu fais les deux en parallèle et tu les utilises pas de la même façon. Et de la même façon, il y a des réseaux sociaux professionnels comme Viadeo, LinkedIn, où tu es pour les opportunités professionnelles, etc. Il y a des réseaux comme Instagram ou Tumblr qui sont extrêmement visuels, avec le principe du feed où il y a pratiquement aucune interaction verbale, c'est que du like, du pouce, ouais, du reblog,
sur Twitter, un gamin, il peut dire Justin Bieber, je t'aime, et espérer une chance sur un million, mais existe vraiment, oui, d'avoir une réponse. Sur Facebook, si elle dit Justin, je t'aime, bah, 0% de chance, 0-0, et ce sera juste sa famille.
C'est ce que je te dis, c'est deux outils différents.
Mélissa, sur quel réseau tu vas, toi, du coup? Quel outil utilises-tu pour qu'on dise Mélissa, je t'aime?
Tumblr, mais du coup, comme disait Sylvain, personne parle sur Tumblr. Enfin, il y a beaucoup de photos, de vidéos, de choses comme ça.
Donc les gens ne te disent pas je t'aime. Ils t'envoient des cœurs.
Ils like mes posts.
Ça veut dire je t'aime.
Un cœur pour dire je t'aime.
Les usages sont tellement différents.
Donc toi, c'est Tumblr quand même. Tu es vraiment team Tumblr, on va dire.
C'est ça, je passe le plus de temps sur Tumblr.
Das, quels sont les réseaux que tu utilises?
Moi, j'utilise plus clairement Twitter que Facebook, mais quand même à un niveau d'amateur, hein. Donc sans calcul, sans rien qui pourrait plaire à Sylvain, rien du tout, je suis complètement candide sur la démarche. Par contre, enfin justement, tous les réseaux sociaux, à mon sens, parce qu'on parle de ringard,
ouais,
qui peut être pris comme une insulte à un moment donné, mais on a aussi hipster, qui, ouais, peut également être pris comme une insulte. Alors, ouais, qu'à l'époque, quand on était branché, c'était pas du tout une insulte, c'était plus un compliment. Maintenant, quand on dit de quelqu'un que c'est un hipster,
ouais,
c'est ça doit être pris comme une insulte. Donc,
surtout
pour moi,
si c'est un hipster.
Surtout si c'en est un, s'il a une chemise à carreaux et des cheveux soyeux, clairement.
Alors,
je ne vise personne.
Mais beaucoup les hipsters sont Tumblr.
Mais cette volonté de vouloir se démarquer du mainstream à tout prix,
ouais,
quitte à utiliser des produits pourris simplement pour dire qu'on est différent. Et donc là, je rejoins encore Sylvain.
J'en prends pas la gueule, la fille.
Et son amour pour Android. Non, mais voilà, c'est, enfin, pour moi, la lutte est un peu vaine. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui essaieront de sortir des sentiers battus et de promouvoir de nouveaux réseaux, de nouveaux usages.
Comme il y aura toujours des petits restaurants, des bars les plus branchouilles,
voilà, avec des pignons fixes devant, et bon. Après, est-ce que c'est ça la vie? Je sais pas. Bon, pour moi, Facebook,
on est comme tous d'accord pour dire qu'on reste sur Facebook de manière utilitaire, et on a un ou deux autres réseaux sociaux qui sont plus
ouais, on est sur Facebook, plus pointu, parce qu'on est obligé, quoi.
FAQ.
La FAQ de retour avec une deuxième question très compliquée. C'est une question shopping. 50 000 followers Twitter pour 30 €. Est-ce bon marché? Alors, on vous rappelle qu'on peut acheter des followers sur Twitter, c'est sale, mais ça existe et beaucoup de stars le font. Fibre, est-ce que c'est bon marché?
Non, pour deux raisons, très rapidement. Premièrement, ce sont pas des gens qui vont réagir, c'est des gens inertes, donc pas d'intérêt. Et deuxièmement, parce que Twitter fait la chasse à ses faux abonnés, donc très très rapidement, ça décroît et vous perdez ce que vous avez acheté.
Donc ce n'est pas rentable. Sylvain, est-ce rentable ?
J'en ai aucune idée sur la rentabilité. Par contre, j'ai une phrase qui me plaît beaucoup, que j'ai vu passer sur Twitter, je crois que c'est Karim Boucherka. En gros, acheter des followers, c'est comme coller le logo d'une Ferrari sur ta Clio. Les gens s'en rendent compte.
Pas mal, pas mal. Mélissa, est-ce que tu donnerais 30 euros, c'est-à-dire 5 kebabs, contre 50 000 followers ?
Absolument pas.
Pourtant, t'en as beaucoup des followers.
J'en ai beaucoup, mais en fait, moi, c'est des gens qui viennent de s'inscrire. Donc, c'est un peu comme si je les avais achetés, sauf que je les ai pas achetés, donc jamais je les achèterai.
Oh là, ça, c'est le bon plan, ça. Jamais. Daz.
Moi, je suis pour l'artisanat, hein, donc.
Donc elle les cherche un par un.
Par bloc de. Voilà, on va les chercher, on essaie de les retenir, mais voilà, les acheter, c'est pour moi c'est un aveu de faiblesse, clairement. Enfin, il faut être gamer, quoi.
Bon, tous nos chroniqueurs sont unanimes. N'achetez pas de followers. Repassa, Sheriff Aluna et Emery.
Sujet numéro 3, ces jeux vidéo qui régressent.
On va continuer dans le scoring avec le troisième sujet de ce Studio 404. Et nous allons parler jeux vidéo. Qui continue de cartonner, nous sommes tous d'accord, mais qui cartonne de manière un peu différente. Nous sommes dans une industrie et une culture qui s'est toujours perfectionnée, qui s'est complexifiée d'une manière technique et narrative avec les années, et qui depuis quelques mois maintenant, un petit peu plus avec les nouvelles plateformes, connaît un regain de forme auprès de nouveaux joueurs pour ces mécanismes à l'ancienne, extrêmement simples, à base de un bouton pour sauter, ou de petits jeux, de petits casse-têtes sans fin, qui cartonnent absolument toutes les ventes, on pense bien sûr à Angry Birds, mais à beaucoup beaucoup de hits sur les smartphones et les consoles. Alors est-ce que le jeu vidéo doit revenir à l'ancienne? Est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes? Nous avons quelques gamers autour de la table et j'aimerais bien avoir leur avis. Mais d'abord, on a une gameuse.
Non. C'est une fausse gameuse.
Non, Mélissa.
J'ai joué en 1993.
Mélissa est très
à Mario Kart.
Voilà. Donc elle a fait ses devoirs. Elle n'est pas une gameuse, mais t'as quand même peut-être un avis sur la question.
Tout à fait. Figurez-vous que quand je travaillais chez Arte, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Eric Viennot et qui fait ce qu'on appelle du transmédia. Et donc qui fait des jeux vidéo, mais qui a réussi à intégrer tous les médias à ça. Mmh. Et je me dis que ça me semble quand même beaucoup plus fascinant que quand je jouais à Tetris sur la Game Boy de mon frère. Donc je me dis que quand même, revenir à ça, c'est comme revenir au vintage ou cette tendance, voilà, on veut faire du minimalisme et c'est génial, c'est mieux que faire des grands projets qui soient trop ambitieux.
Mais donc toi, tu défends quand même un jeu vidéo, du coup, qui serait plus perfectionné, plus expérimental.
Un jeu vidéo où on pourrait aller dans les décors juste pour aller dans les décors et pas parce qu'il y a un truc à aller chercher.
Oh, il faudrait qu'elle joue à la journée.
Minecraft.
Ou à Minecraft. Sylvain, en parlant de Minecraft, c'est marrant. Écoute, c'est un jeu qui cartonne avec un principe très simple.
À mon avis, enfin, je vais pas te donner mon avis de gamer, là, je vais te donner mon avis en termes de vision de marché.
Oh là, oh là.
Voilà.
Donc, serious business.
Alors, c'est l'instant PowerPoint de Sylvain Pal.
Alors, voici une courbe. Non, mais tu vois, le casual gaming, donc le jeu pour les joueurs occasionnels. Les filles avec la Wi-Fi.
Putain.
Moi je suis comme
les
ça.
Filles avec
moi,
le...
je fais des amalgames et tout.
Ah, mais ça l'a mal vécu. Hein.
Fibre-Tig a déjà dit les jeunes sur Facebook. Donc,
voilà. Ça, le smartphone. Et puis la dématérialisation, le fait qu'on n'achète plus ces jeux, on peut les télécharger.
Ouais.
Tout ça réuni, ça donne un marché de jeux vidéo extrêmement mature, qui représente beaucoup d'argent, plus que les films hollywoodiens.
Ouais, plus que toutes les zones industrielles.
Et encore, c'était il y a 2 ans. Donc on arrive à un marché extrêmement mature qui prend.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'ai l'impression, hein, je fais une analogie avec le marché de la musique. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des cons pour écouter David Guetta à la radio.
Est-ce que pour toi, les jeux vidéo, simple ou simplissime ou simpliste, c'est le David Guetta du jeu vidéo? Ou est-ce qu'il y a
justement,
du talent derrière Angry Birds
justement, moi ça va plus être en termes de super production,
ouais.
Les licences, ce genre de choses. Et il y aura toujours des... des journalistes, des mecs sur Internet passionnés qui vont essayer d'aller nous trouver la perle rare du jeu indépendant à la manière d'un Pitchfork peut aller te trouver un groupe au fin fond du Texas qui remplit des salles de 200 personnes à peine et pourtant qui est le groupe de 2013
ou la Blogothèque. Donc toi tu défends
faire de la pub pour les copains, toi.
Tu défends et tu crois une variété toujours du jeu vidéo. On va pas revenir en arrière.
Non, il y a une variété absolue.
Fibre, toi qui as beaucoup étudié les mécanismes de game design et de narration dans le jeu vidéo, qu'est-ce que tu penses de ce carton des mini-games un peu?
Deux points très rapides. Premier point,
très rapide.
Quand on découvre un nouveau territoire intellectuel, le cinéma, le jeu vidéo, très rapidement, on déflore les gros principes. 75% de la philosophie, elle a été faite sous Socrate. Bon, là, je vais me faire engueuler à mort. Mais bon, là, c'est ça, en gros.
Point troll philosophique.
Et en gros.
On a 5 minutes, il faut que tu quittes Socrate tout de suite.
Donc, en gros, dans les années 80, effectivement, on a découvert les grands principes de jeu. Et en trouver un nouveau aujourd'hui, vraiment, faut se lever de bonheur. Voilà. Première chose. Deuxième chose, le retour aux années 80 s'explique aussi par le fait que les gens qui font des jeux vidéo aujourd'hui sortent d'écoles de jeux vidéo et ils n'ont pas des formations classiques académiques. Ils ont des formations de mecs de jeux vidéo, c'est-à-dire ils étudient Mario, ils étudient pas l'histoire de l'art, ils étudient pas la musique classique, etc. Ouais. Et donc en fait, ce sont des gens dont les références sont les années 80 et pour qu'ils justement au-delà de leur éducation, au-delà de leur performance, il faut aussi qu'ils se lèvent de bonne heure. C'est le point de vue de Jonathan Blow qui a créé Braid, un jeu original.
Mais est-ce que tu es en train de dire que Angry Birds, c'est un jeu des années 80?
Oui, complètement.
C'est Artillery sur Macintosh.
Ah, alors Daz, toi qui es aussi un old school gamer et qui passe beaucoup de nuits blanches à jouer à Street Fighter, à jouer salement à Street Fighter.
Voilà. En fait, je ferai aussi le parallèle avec la musique que Sylvain a fait, à savoir que le marché maintenant permet justement de se lancer sans forcément avoir une assise budgétaire derrière et les moyens qu'il fallait avant pour mettre un jeu en rayon, où clairement un bon concept était tout de suite sanctionné par un directeur artistique ou même simplement un directeur marketing qui disait mais ça se vendra jamais, ça servira à rien.
Tu es pour le retour des petites productions des garage gaming?
Je pense que les deux, en fait, les deux mouvements peuvent cohabiter sans problème, et puis on voit justement de grands noms du jeu vidéo qui commencent à se mettre à éditer tout plein de petits projets développés en indépendant par une seule personne sur une semaine, machin, etc. Et ça, c'est très bien. Par contre, il faut pas que ça, clairement. Mais pour un Heavy Rain qui a trusté la communication sur tous les médias possibles pendant un moment, il y a combien de super hexagones et de petites perles comme ça qui n'ont pas l'exposition.
On finira sur Super Hexagone. Téléchargez-le et jouez peut-être aussi à Heavy Rain.
C'est français.
Non, on joue pas à Heavy Rain, on le subit.
FAQ.
Troisième question de la fac pour digérer entre deux sujets. Une question de prononciation ou de, je sais pas, de sémantique, de syntaxe, de vocabulaire. On me pose la question, dois-je dire Internet, l'Internet ou les Internets? Alors, comment tu le dis, Mélissa?
C'est un énorme débat. Je dis l'Internet quand je parle à des gens qui utilisent Internet un grand public. Ouais. Et quand je parle à mes potes qui traînent beaucoup sur Internet, je dis les Internets.
Alors les Internets, c'est comme un peu du second degré.
C'est ça. Les autoroutes de l'information.
Oh, ouais. Ça, d'accord. Donc en fait, les internets n'est pas une faute, mais quasiment du snobisme pour toi.
C'est ça. C'est un terme de gens qui aiment trop l'internet.
Daz.
Moi, je dis internet multimédia.
Ah,
avec un arrobase à la fin. J'essaie de prononcer l'arrobase, c'est pas possible. Internet multimédia. Oh,
vous êtes taquin avec ces gens qui ne savent pas comment prononcer ou appeler internet. Fibre.
Quand je sais pas prononcer un mot, je tousse. Je fais internet.
Donc il y en a qui toussent, ça va de plus en plus loin. Sylvain?
Non, moi je dis Internet, et ironiquement, comme Mélissa, les Internets ou l'Internet, mais il y a vraiment des Internets en fait. Mais c'est une question qui mérite d'être...
Oh là là, quelle frustration à chaque fois dans cette émission, trop de choses à développer.
Sujet numéro 4. Free brûle-t-il?
Est-ce que Free, qui était vraiment l'opérateur qui a tout compris, est devenu un peu la bête noire ou l'opérateur qu'on a envie d'éviter aujourd'hui? Voilà, je suis avec des gens qui ont Internet, je crois.
Moi j'ai Internet.
Qui a Free?
Alors,
déjà, Sylvain, Internet, c'est bien. Sylvain, Internet. Qui a Free?
Moi j'ai Internet.
Alors moi j'ai Free.
Alors Daz, tu as Free.
J'ai Free ADSL et j'ai Free Mobile.
En tant qu'utilisateur, est-ce que tu es satisfait déjà ou pas?
Non.
D'accord.
Alors pour la DSL, pour la partie ADSL, la partie mobile, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est merdique, donc on va pas en parler. Pour la partie ADSL, le produit en lui-même est sympa, c'est-à-dire que la dernière Freebox, la Révolution, elle est assez complète et puis elle fait bien ce qu'on lui demande de faire. Ça c'est très bien, ça plante pas souvent. Ça permet de faire du time shifting et tous les machins qu'on nous vend maintenant, même chez Darty, et ça c'est très très bien.
Par contre, c'est
la politique concernant donc l'accès aux gros sites ou aux sites à fort trafic.
Alors on parle là de YouTube, de Dailymotion, de Steam,
de l'App Store. Et il y a plein d'autres sites qui sont soupçonnés d'être bridés en fait par Free.
Alors en plus, c'est pas soupçonné, je crois qu'ils le disent ouvertement aujourd'hui.
C'est pas vraiment qui bride en fait.
Bah si, ils brident.
Bah en fait, on est sur les autorités de l'information.
Ouais, ils capent,
et on est très très nombreux et ça bouchonne à fond. Et quand on arrive au péage, il y a ceux qui font la queue. Et il y a ceux qui ont le télépéage.
C'est tellement de métaphores.
Et à la fin, tout le monde est coup de fil dans la voiture.
Et celui qui a le télé, celui qui a le télépéage, il grille tout le monde parce qu'il est chez Orange, il est chez Bouygues, etc. Parce que ces gens-là ont signé des accords avec Google, avec Apple, etc. pour améliorer les interconnexions. Alors, Free ne veut pas le faire. Ce que Free reproche à Google, c'est de pas investir dans les infrastructures en France.
Mais ça, pour moi, c'est complètement faux. Quoi. Mais
pourquoi c'est complètement faux.
Parce que c'est Free qui nous fait payer l'accès à ces infrastructures.
Oui. Google n'est pas un fournisseur d'accès, on est d'accord. Je vois pas pourquoi ce serait eux qui paieraient en France pour
vous
aller sur Internet. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi.
Ah parfait.
Oh là là, c'est super.
J'ai eu peur.
Fibre,
non, clairement.
Free, monsieur Lame.
Oui, fibre.
Son nom même est une promesse dont on sait qu'il ne tiendra pas.
Libre et gratuit.
Il dit qu'il est libre, il dit qu'il nous rend libre, il nous dit qu'il est gratuit, mais il est pas gratuit, on paye. Il n'y a pas de zéro, il n'y a rien à zéro.
Alors, on va pas revenir sur le débat du libre et du gratuit. Mais Free promettait une nouvelle ère d'Internet qu'il a plus ou moins apporté au début des années 2000, quand même. On peut alors retirer ça.
Mais non, mais ça n'a jamais marché. Écoutez. Nous cinq autour de la table et ceux qui nous écoutent sont intéressés par l'Internet. Internet, c'est devenu important. Il faut que l'Internet soit tout le temps présent. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre un fournisseur qui n'est pas fiable comme Free. Parce qu'avec Free, vous avez des déconnexions. Et moi, j'investis, je paye très cher chez Orange. Ça me coûte la peau des couilles. Mais je n'ai vraiment aucune déconnexion. Et je vais même vous dire, quand j'ai pris ma Livebox chez Wanadoo à l'époque, ils m'ont dit, vous l'aurez dans deux jours. Le soir même, je l'avais. Et j'ai dit, merci Orange, merci la France. Voilà.
Oh là là, merci la France. Alors derrière Fibre qui a brandi son épée au bord d'un précipice à Leclerc de Ville, il y a Mélissa qui reste calme. Mélissa, est-ce que tu as un avis sur Free, qui était le chouchou des geeks et qui est en train de tomber de son piédestal un petit peu?
Alors déjà, avant, je voudrais dire que Free était le plus gros investisseur en France, 600 millions d'euros à la fin de l'année dernière, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Mais en fait, la coolitude s'est arrêtée le 10 janvier dernier quand ils ont lancé vraiment leur offre mobile et que
elle était au top au moment où ils l'ont annoncé.
Après, ah oui, mais quand ils l'ont lancé et que les gens ont commencé à recevoir, alors déjà ils ont mis 10 ans à recevoir leur carte SIM. Quand ils les ont reçus, ça marchait pas vraiment très bien et qu'ils pouvaient plus aller sur Internet. Donc ce jour-là, c'était fini.
Le départ de Rodolphe aussi dans la pub, ça fait beaucoup de mal à Free.
Donc moi, je suis chez Orange et Bouygues. Tu
es chez Orange et Bouygues. Mais a-t-on aujourd'hui le droit à l'erreur quand on a été une entreprise justement un peu cool, qui sort un peu des sentiers battus et du portrait de la grosse multinationale?
Pour moi, c'est pas des erreurs. C'est volontaire. Ils font pas d'erreur là-dessus. Enfin, c'est pas une faute d'inattention. C'est pas. Ils ont décidé eux de faire pression sur les fournisseurs de contenu en disant voilà, vous êtes un gros site. Beaucoup de mes abonnés veulent aller chez vous, donc payez-nous. Sinon, vous avez pas nos abonnés. Concrètement, c'est comme ça que je. C'est du racket. Pour moi, c'est du racket.
Ou alors, c'est carrément le petit village de Gaulois qui s'insurge contre le multinational. Donc, on quitte
du racket gaulois.
Mademoiselle, messieurs, on quitte tous Free.
Alors. Moi, pour la partie Free Mobile, clairement, je vais me barrer parce que je paye un abonnement Spotify que je suis incapable d'utiliser en mobilité. C'est un peu dommage. Pour Free ADSL, j'ai espoir qu'un jour il y ait une révolution et que, autre que la Freebox, et que Free finisse par écouter ses abonnés, parce que je vois énormément de gens qui rouspètent sur les réseaux sociaux en disant que
on est sur Internet, il faut qu'on fasse une class action à l'américaine. Il y a qu'avec Internet qu'on pourra faire ça en France, grâce à Internet.
Bon, Free, on arrive. Attention à toi. Quatrième question de la fac, et c'est une question de taille. Alors, c'est pas Enlarger Penis, mais c'est Enlarger Screen. On a un auditeur qui est complètement perdu, qui nous dit, on me propose des tablettes à 5, 5,5, 6, 7, 7,9, 8, 9,7, 10, 11 pouces. Mais qu'est-ce que je dois acheter à la fin et quelle est la bonne taille? Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de bonne taille, de bonne pointure?
C'est pas la taille qui compte.
C'est comment on s'en sert.
C'est la façon dont on veut s'en servir.
Donc, Sylvain, qui a une Nexus 7 pouces, si je ne m'abuse.
Exactement.
Alors, est-ce que t'es content? Est-ce que tu trouves que la taille
j'en suis très content. Par contre, ça remplacera jamais un ordinateur. Voilà.
Parce que l'écran reste trop petit.
Ouais.
Mélissa, est-ce que tu as une tablette?
Je lis actuellement mes notes sur mon iPhone. Et je n'ai pas acheté de tablette. J'ai un ordinateur et un iPhone. Parce que, en fait.
Entre les deux, tu trouves
qu'il y a pas d'utilité? Entre les deux, je trouve que ça n'a vraiment pas d'utilité, vu que je veux vraiment un ordinateur quand je fais des choses ou je fais plus que envoyer un mail via mon téléphone.
Daz, toi à côté, tu lis tes notes sur ton iPad de 9,7 pouces, si je ne m'abuse.
9,7, ouais.
Est-ce que tu es heureux?
Oui, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi une tablette un peu plus petite.
Comme l'iPad mini.
Comme l'iPad mini, par exemple.
Ah, il l'a bien placé quand même. On vous rappelle que Daz est le défenseur devant l'éternel d'Apple. Fibre. Non, toi qui as un carnet d'à peu près, je dirais, 200 points, un carnet double spirale, 4 pouces.
Alors, j'ai sorti mon carnet parce que mon imprimante était en panne. Mais, je trouve absolument qu'il n'y a aucun intérêt dans les tablettes. Je comprends pas pourquoi on en achète. Merci. Et en plus, on a l'air ridicule quand les touristes prennent des photos du Louvre avec leurs tablettes. Vraiment, c'est...
Les gens disaient la même chose. On est des clowns. Il faut vivre avec son temps, monsieur.
Oui, On
restera sur les valeurs sûres. 7 ou 9,7 pouces, monsieur. Achetez des tablettes pas si plus. Vous en trouvez l'utilité.
Sujet numéro 5. Les milices du net. Justice par tous.
Dernier sujet de notre studio 404 est un sujet épineux. Nous allons parler de justice et surtout la justice par et pour les internautes sur les internets. On va garder les internets, je pense. Que s'est-il passé récemment? Il y a eu beaucoup de trolls ou de personnes qui ont fait des mauvaises actions et qui ont été démasquées. Et quand je dis démasquées, c'est dans les grandes largeurs puisqu'on a révélé leur nom, leur métier, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leurs proches, pour des méfaits avérés ou pas qu'ils avaient commis. Et souvent, les gens qui ont fait tomber ces personnes ou qui l'ont mise au grand jour sont des internautes qui se réunissent de manière exceptionnelle et momentanée ou ponctuelle autour d'une certaine cause avant de redisparaître dans les méandres du net. Alors, vit-on aujourd'hui une drôle d'époque où des milices gigantesques et mondialisées se créent avant de disparaître pour rendre justice pour des cas parfois mineurs, on va en parler, parce qu'on parle parfois juste de chats ou de chiens.
Je soutiens 100%.
Fibre, déjà, que penses-tu de cette notion de milice, de justice rendue par des internautes qui se réunissent ensemble pour mener l'enquête et confondre des malfaiteurs?
La culture Internet est une culture américaine. Pas talibane ou japonaise, mais américaine. Et c'est très américain de faire justice soi-même. Mais c'est dans un monde, l'Amérique, où la libre expression est totale. Donc c'est pour ça que les Anonymous, qui sont une émanation un petit peu américaine, existent complètement et sont légitimes, et que les Anonymous français ou belges ou suisses...
Les Anonymous, c'est un groupe... sorte de groupe de justiciers du net.
Ouais, pirates. Et ça n'a aucun sens en Europe, par exemple, parce que, en Europe, ben, justement, on légifère avant de réfléchir.
Mélissa, qu'est-ce que tu penses de cette culture milice? Est-ce que c'est une sorte de bonne idée d'avoir une sorte de conscience du net qui rend justice? Ou est-ce que tu penses qu'une personne qui a tout de même jeté, par exemple, un cheveu dans une rivière doit avoir sa vie ruinée par des milliers d'internautes qui lui sautent dessus de manière très brutale, quand même?
Je pense que l'énergie est quand même la bonne. C'est des groupes qui volontairement se veulent défendre une cause ou veulent résoudre une enquête. Ouais. Par contre, ils sont pas toujours efficaces. La plupart du temps, ils finissent par trouver. On parlera des affaires où ça a marché. Pour la tuerie d'Aurora, par exemple, pour retrouver le mec sur Internet, il y a plein de gens, notamment sur le site Reddit, qui sont mis à chercher, à enquêter.
Reddit, qui est une grande communauté quand même, voilà. Des gens très actifs.
Et qu'ils ont tous cherché pendant des heures et des heures quand l'annonce a eu lieu, et ils ont fini par pas trouver, en fait, parce que le mec n'était pas sur Internet. Donc
ça reste un peu limité. Au-delà de ça, Sylvain, qu'est-ce que tu penses aussi peut-être du fait que ces milices et ces justiciers sont parfois plus motivés par le côté ludique, justement, comme disait Mélissa, de créer une aventure collective et une enquête collective et de trouver une sorte de but ou de coupable, plus que de rendre la justice en elle-même? Parce ouais. qu'on se retrouve quand même dans des cas un peu déséquilibrés où des gens pètent des plombs pour trouver une vieille dame qui a jeté un chat.
Ouais, non, mais les Américains, ils ont un mot pour ça s'appelle le hive minds. C'est l'esprit de ruche, en fait. Mm-hmm. C'est juste que c'est jouissif de se retrouver dans un groupe, de faire avancer une enquête, d'apporter à la communauté des indices, des preuves, etc. Et bon, après, avec les chats, les chiots, les animaux, Internet a une très très grande histoire avec les animaux mignons. Donc c'est normal que ce soit les internautes qui les défendent, parce que qui s'en occupe? Brigitte Bardot?
Non. Elle va y venir, je pense.
Ben, à la fin.
Moi, je suis. Ouais, oui. Non, enfin, ce phénomène-là me laisse un peu stoïque. C'est bien, tout le monde veut jouer au professeur Layton, essayer de résoudre les enquêtes et les énigmes, etc. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir le premier point Godwin de cette émission, même si tu as parlé de nazis tout à l'heure, donc à la limite, je pourrais le faire maintenant. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est juste de la délation. C'est pour ça. Un but qui, soi-disant, est noble, mais bon, en 41 ou 42, peut-être que certains Français pensaient que c'était noble. Ah, de dire que leurs voisins,
oui, voilà, normalement, c'est un point de vue très français. C'est pour ça que...
Et c'est pour ça que je le donne, mon point de vue, car je suis français.
C'est pour ça qu'on on est à côté de la plaque quand on essaie d'analyser par la culture française. C'était... En Amérique, quand vous prenez votre voiture et que vous écrasez un gamin de 5 ans, vous allez en prison tout de suite. En France, vous avez une assurance qui vous couvre parce qu'elle est obligatoire.
Non, je suis d'accord c'est sur la différence
et donc, quand un Américain noie un chat et le met sur Internet, c'est quand il prend sa voiture. C'est-à-dire qu'il a pris en lui la responsabilité de son acte.
Pour moi, le vrai problème, il est là, c'est justement.
On va terminer sur toi.
C'est que ces gens qu'on retrouve, à la base, se sont filmés en train de commettre un méfait comme noyer un chaton ou jeter un chien contre un mur. Donc bon, j'irais bien fait pour leur gueule, mais la démarche, quand même, faut que ça reste un peu surveillé, ce truc-là, quoi. C'est pas la jungle, Internet. Merde. Ouais.
Bon, c'est sur ce coup-là qu'on finira. Donc, Internet, c'est justice par tous, mais surtout pour les chatons.
FAQ.
Allez, pour terminer cette émission extrêmement animée, une question extrêmement animée sur un site extrêmement animé, 9gag. Quelqu'un nous écrit, un auditeur nous dit « J'adore 9gag, je l'ai dit à ma copine, elle est partie de l'appartement en claquant la porte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec 9gag ?» Alors, nous avons des spécialistes de la question. J'en connais un qui est déjà en train de bouillir, sa moustache se frise, c'est Sylvain. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce site ? 9gag, c'est un site, alors on vous rappelle que 9gag, c'est un site participatif où les gens postent des gags et du lol en termes d'images, de BD ou de vidéos, les gens like et globalement les plus populaires sont en page et c'est devenu extrêmement, extrêmement gros comme site.
Ouais. La première chose que je vais dire à un autre auditeur, c'est que sa copine a eu raison. et qu'il n'essaye pas de la récupérer. Elle est très bien là où elle est. Et la seconde chose que je vais lui dire, c'est que 9gag, c'est un petit peu le cancer de l'humour sur Internet.
Le cancer de l'humour,
C'est-à-dire qu'Internet a mis 5 ans à développer des codes, à mettre en place des choses, des phrases, une culture digitale, une culture de l'humour. Et 9gag vient récuperer tout ça.
Et met son watermark.
Mélange tout, met son watermark, monétise le truc. C'est dégueulasse, c'est de la merde.
Fibre, tu es pour ou contre 9gag ?
Simplement,
est-ce que ça démocratise l'humour ou est-ce que ça le vole ?
S'il veut retrouver sa femme, il a qu'à lui présenter 9blag.com qui est la version française. Elle appréciera.
Ah, on va se pendre.
Daz, est-ce que tu vas sur 9gag ?
Non, parce que j'ai de l'humour. Non, mais 9gag, pour moi, c'est un peu la redoute de la blague sur Internet. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent pas la mode, la redoute, c'est génial.
Non, c'est Vincent Lagaffe, j'ai l'intérêt.
Mélissa, enfin, est-ce que tu as un avis dissonant avec tes collègues ou est-ce que tu condamnes aussi ce site ?
Mais même pas, c'est le symbole en plus de ce qu'on déteste, c'est le hold et souvent les meilleures blagues qui étaient sur 4chan arrivent sur 9gag le dernier jour.
Ah là là là, donc ne va pas sur 9gag pour récupérer ta femme et ne va pas sur 9gag pour impressionner les filles parce que du coup tu passeras pour un hold. C'est mort.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Fin de cette seconde émission de Studio 404, toujours aussi animée et remplie. Nous avons un petit peu débordé, mais j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Nous vous invitons à venir réagir et à venir poser vos questions aussi sur notre site officiel, studio404.skyrock.com. Ça, c'est pas les internets, je ne sais pas ce que c'est. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.